France Inter.
Et 19h, c'est l'heure de votre journal, Éric Delvaux, bonsoir.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, Marine Le Pen à Mayotte tacle le plan de reconstruction du gouvernement Bayrou, accusée de ne pas aller assez loin. Elle prône un renforcement de la lutte contre l'immigration clandestine. À partir de demain lundi, Nicolas Sarkozy et trois anciens ministres seront jugés pour les soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Les détails à venir avec Sarah Guibaudeau. Nous serons à Beverly Hills à quelques heures de l'ouverture des Golden Globes. Le film de Jacques Audiard, Emilia Pérez, avec 10 nominations, fait partie des favoris. Et puis nous fêterons à Paris les 150 ans aujourd'hui du Palais Garnier. Enfin, attention à la tempête Florian qui va souffler sur l'Hexagone. De forts coups de vent prévus cette nuit. 21 départements sont en vigilance orange. Le temps de demain, donc, Magali Rochereau, un lundi certes doux, mais donc bien perturbé.
Oui, Eric, par des rafales de vent accompagnées de pluie sur les côtes de l'Ouest.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes. À Mayotte, Marine Le Pen était à peine descendue de l'avion cet après-midi qu'elle annonçait déjà ses priorités pour reconstruire l'avenir. Rien ne sera utile, a-t-elle dit, si on ne règle pas le problème de l'immigration. Elle reproche, Marine Le Pen, au plan du gouvernement de ne pas aller assez loin. La chef de file des députés RN a entamé une visite de 2 jours à Mayotte à la rencontre des sinistrés et des secouristes. Reportage à Mamoudzou de Pierrick Bonneau.
3 semaines après le passage du cyclone, le Rassemblement National joue la carte de la sobriété. Pas de collier de fleurs autour du cou, pas de danse traditionnelle pour accueillir la très populaire Marine Le Pen. Tout juste quelques partisans qui donnent de la voix à la sortie de l'aéroport.
Trop de choses se sont passées pendant tout ce temps. Il y a eu l'UMP, il y a eu tous ces gouvernements qui sont tous passés. Ils ont toujours laissé Mayotte à l'abandon. Moi, je pense que cette femme, elle est très sérieuse. Elle veut vraiment sauver Mayotte.
À sa descente de l'avion, Marine Le Pen dit vouloir observer avant de commenter, mais très vite, la politique reprend le dessus. La chef de file des députés du RN est là pour contrôler l'action du gouvernement sur le terrain.
J'espère que la souffrance des Mahorais suffit à mettre la pression sur le gouvernement. Que j'ai pas besoin de mettre une pression supplémentaire. En revanche, j'ai entendu des promesses. Et moi, je considère que les promesses qui ont été faites aux Mahorais qui sont dans une souffrance folle ne doivent pas être oubliées.
Marine Le Pen affirme déjà que la loi d'urgence pour Mayotte, pas encore présentée, n'ira pas assez loin. Elle appelle le gouvernement à légiférer sans attendre sur l'immigration clandestine. Demain, la députée a prévu de faire le tour de Grande Terre en commençant par une visite de la seule maternité de l'archipel où 3/4 des femmes qui accouchent ne sont pas françaises.
Pierrick Bonneau à Mayotte avec les moyens techniques de Gilles Gallinaro. Et dans une tribune publiée aujourd'hui par Le Figaro, 3 ministres du gouvernement Bayrou, Bruno Retailleau à l'intérieur, Manuel Valls à l'outre-mer et Sébastien Lecornu aux armées, tous les trois affirment eux aussi que sans fermeté migratoire, nous reconstruirons Mayotte sur du sable. Les 3 ministres promettent un nouveau projet de loi sur Mayotte en insistant sur ce qu'ils appellent une lutte efficace contre l'immigration clandestine. La mort d'Anne-Marie Comparini, une fidèle de François Bayrou, ancienne présidente de la région Rhône-Alpes. Elle avait 77 ans. François Bayrou salue ce soir une femme qui avait refusé à l'époque, dit-il, toute compromission avec le Front National. La mobilisation des agriculteurs a été plutôt discrète pour l'instant dans et autour de Paris. Journée de mobilisation à l'appel de la coordination rurale. Ils étaient ce soir 10 d'agriculteurs dans le 17e arrondissement de Paris à camper place du Brésil. Malgré l'interdiction préfectorale, 10 agriculteurs de la coordination rurale, donc, dont Jérôme Battré, président de la coordination rurale Haute-Loire, au micro de Farida Noir.
On est arrivé, on nous a sauté dessus, je pense qu'il doit y avoir 40 de forces de l'ordre, et directement contrôle d'identité, enlever les drapeaux, les plier, les ranger, voilà, on est les malvenus, c'est clair. On va plus lâcher la mobilisation au bout d'un moment, parce que ça fait 1 an qu'on a des promesses en l'air et qui ne sont pas tenues. Si ça continue, ça va durcir et on va se retrouver de plus en plus nombreux. Personnellement, on a fait 600 km pour venir, on va pas repartir comme ça parce qu'on nous demande de partir ce soir. Nous, on est plus accueillants à la campagne qu'ils le sont en ville. Hein.
Voilà, témoignage recueilli, donc, place du Brésil à Paris, un choix qui ne doit rien au hasard. soir pour mieux condamner une nouvelle fois l'accord de libre-échange entre l'Europe et les pays du Mercosur, dont le Brésil et aussi l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay. Et puis je précise que parmi les 10 agriculteurs installés dans cette place du Brésil, le secrétaire général de la coordination rurale, Christian Converse, a été arrêté en fin d'après-midi, conduit au commissariat du 17e arrondissement. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron en 2022, un service public de la petite enfance. Autrement dit, une solution de garde pour chaque enfant, pour aider les parents qui manquent de temps ou de revenus. Jusqu'ici, c'était une compétence facultative des communes, mais depuis le 1er janvier, les mairies ont de nouvelles obligations. Or, avec la chute du gouvernement, eh bien l'enveloppe de 86 millions qui devait soutenir ce projet, l'enveloppe a été gelée et beaucoup de communes se disent aujourd'hui inquiètes. Arthur Fradin.
L'un de ceux qui tire la sonnette d'alarme, c'est Daniel Cornalba, maire de L'Étang-la-Ville, dans les Yvelines.
Et co-président du groupe de travail Petite Enfance à l'Association des maires de France. Près de 40% des communes n'ont pas d'agent dédié au service de la petite enfance. Et donc on voit que là, il y a un immense enjeu à la fois de recrutement. Pour cela, encore faut-il que les communes soient parfaitement informées.
Or, ce n'est pas le cas, selon lui. Presque la moitié des maires ne sont pas au courant que depuis le 1er janvier, leur commune est en charge de recenser les besoins des enfants de moins de 3 ans, d'informer et accompagner les familles.
C'est une reconnaissance d'un rôle que les mairies jouent déjà bien souvent. Il faut encore se donner les moyens. Aujourd'hui, les 86 millions qui étaient prévus dans la loi de finances initiale ne suffisaient pas, et même de l'aveu même de l'État.
Une situation que Nicolas Grivel, directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales, tient à dédramatiser.
Compte tenu des aléas des débats politiques et budgétaires, il risque d'y avoir un petit décalage dans le temps de l'octroi de cette enveloppe. Mais c'est pas un sujet qui doit inquiéter. Les CAF sont le principal financeur public des lieux d'accueil de petite enfance. On est dans une période jusqu'à 2027, d'augmentation sensible de nos financements, plus 1,5 milliard par an de notre soutien à la petite enfance.
En attendant, début 2025 s'annonce comme une période de grand flou, selon Daniel Cornalba. Il attend de voir à l'œuvre le tout nouveau haut-commissaire chargé de l'enfance qui doit prendre ses fonctions en janvier.
Nicolas Sarkozy et aussi trois anciens ministres, Claude Guéant, Éric Woerth et Brice Hortefeux, en tout 13 prévenus seront jugés à partir de demain jusqu'au 10 avril pour les soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle de 2007. Nicolas Sarkozy est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour corruption, financement illégal de campagne électorale, association de malfaiteurs, recel de détournement de fonds publics. Sarah Guibaudot, l'ancien président, encourt 10 ans de prison.
C'est en 2005 que le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, aurait noué un pacte de corruption avec la Libye via l'homme d'affaires Ziad Takieddine, déjà condamné pour avoir servi d'intermédiaire pour le financement de la campagne Balladur en 1995, et avec l'aide de ses proches Claude Guéant et Brice Hortefeux. L'accord a-t-il été confirmé lors d'une rencontre à Tripoli entre le futur candidat Sarkozy et Muammar Kadhafi? L'interprète du Quai d'Orsay s'estime tenu au secret professionnel. La défense juge grotesque que les deux hommes aient pu parler de corruption à quelques mètres de la délégation officielle. L'accusation observe pourtant que ce voyage donne le top départ des versements sur un compte de l'intermédiaire. L'argent emprunte différents canaux, il passe par le Liban, le Panama, la Suisse, il a aussi été transporté en cash. L'accusation estime par ailleurs établie que des espèces d'origine douteuse ont circulé pendant la campagne. Les juges d'instruction s'appuient donc sur un faisceau d'indices, mais ils n'ont pas établi combien d'argent au total aurait été versé. La défense de Nicolas Sarkozy conteste tout financement illégal.
Sarah Guibaudot. Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, doute de la volonté d'Alger de respecter la feuille de route des relations bilatérales franco-algériennes. Et chez nos confrères d'RTL, il cite le cas récent de l'incarcération de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Bonsoir Louise Baudet.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Cette feuille de route entre les deux pays existe depuis 2022, mais c'est la première fois qu'un ministre français exprime aussi clairement ses doutes sur les intentions algériennes de la respecter.
Oui, pour tenir la feuille de route, il faut être deux, dit encore le ministre. Et ses doutes exprimés à haute voix révèlent la tension qui prévaut désormais entre Paris et Alger. Il y a d'abord la situation de Boualem Sansal, vous en parliez, écrivain critique du pouvoir algérien, incarcéré depuis 50 jours pour atteinte à la sûreté de l'État. Boualem Sansal, un imposteur envoyé par la France, selon Alger, qui multiplie depuis l'automne les griefs contre Paris, accusant par exemple les services secrets français d'avoir tenté de recruter des terroristes algériens repentis dans le but de déstabiliser le pays. Accusation grave qui révèle la profondeur de la crise ouverte l'été dernier par le revirement pro-marocain de la France sur le dossier du Sahara occidental, alors que l'Algérie est un soutien historique des indépendantistes sahraouis. La visite d'État d'Emmanuel Macron au Maroc fin octobre a fini de creuser le fossé. Alger, qui a retiré son ambassadeur à Paris fin juillet, a convoqué l'ambassadeur de France il y a 3 semaines, l'accusant de vouloir de recevoir des personnes connues pour leur hostilité au gouvernement et dénonçant, je cite, le climat de haine entretenu contre l'Algérie dans les médias français.
Et en marge de ce dossier des relations franco-algériennes, voilà un troisième influenceur algérien interpellé aujourd'hui en France pour des propos jugés violents sur les réseaux sociaux. Hier, le maire de Montpellier et le préfet de l'Hérault avait signalé à la justice la publication sur TikTok d'une vidéo de cet influenceur qui réside à Montpellier. Vidéo dans laquelle il appelait à s'en prendre à un manifestant algérien anti-régime. Moscou affirme repousser une nouvelle offensive ukrainienne dans la région frontalière russe de Koursk, la même où les forces de Kiev contrôlent déjà plusieurs centaines de kilomètres carrés depuis un assaut en août 2024. À partir de ce dimanche, à partir d'aujourd'hui, donc, New York ouvre un nouveau péage urbain. Les automobilistes doivent désormais payer pour accéder au centre de Manhattan. Et c'est une première aux États-Unis, dans ce pays où la voiture est reine. Un péage urbain, donc, que conteste le futur président Donald Trump, Loïc Loury.
9 dollars en heure de pointe et moins de 3 dollars le reste du temps, voilà ce qu'il en coûte désormais d'entrer en voiture dans la partie sud de Manhattan. Tout est automatique et peu importe le nombre d'allers-retours, on ne paye qu'une seule fois par jour. Depuis hier minuit, le péage urbain new-yorkais est enfin lancé après des décennies de bras de fer et d'hésitations politiques. L'été dernier, le programme avait ainsi été gelé pour ne pas gréver les chances des démocrates au Congrès dans l'État de New York. Le système qui doit permettre de renflouer les caisses des transports publics, d'améliorer la qualité de l'air ou la fluidité du trafic pourrait toutefois ne pas faire long feu, car si les opposants au projet à New York et dans le New Jersey voisin ont été jusque-là déboutés par les juges, c'est Donald Trump qui pourrait y mettre son grain de sel. Le natif de New York a promis, sitôt à la Maison-Blanche, de mettre un terme au péage et avec l'aide du Congrès si nécessaire. New York, Loïc Loury, France Inter.
Le changement climatique et ses conséquences en Italie. La principale association écologiste italienne a fait ses comptes. Eh bien, en 2024, il y a eu quasiment un événement climatique extrême par jour dans la péninsule. Et ce ne sera pas sans conséquences sur les primes d'assurance, Bruno Duvic.
351 événements extrêmes en 2024, c'est en effet le compte qu'a fait Legambiente. Inondations, pluies intenses, tempêtes de grêle, épisodes de sécheresse prolongés. Au-delà du chiffre, ce qui compte, c'est l'évolution sur le long terme. En 10 ans, le nombre de ces événements a presque été multiplié par 6, selon l'association. Ce qui augmente le plus, ce sont les épisodes de sécheresse et d'inondations. Et ce que décrit le rapport, c'est un pays coupé en deux. Au nord, beaucoup trop d'eau par moment. Au sud, un manque cruel, en Sicile en particulier, qui a vécu une terrible année de sécheresse. Les scientifiques parlent d'une extrémisation du climat. Parmi les mesures d'adaptation cette année, une nouvelle loi sur les assurances, car tout cela a évidemment un coût. Celui des inondations en Émilie-Romagne en 2023 est évalué à 8 à 10 milliards d'euros. On estime que seulement 5% des entreprises sont couvertes contre ce type de risque. À partir de cette année 2025, ce sera obligatoire.
Plus de 30 cétacés ont été retrouvés morts en mer Noire, près du détroit de Kertch, entre la Russie et la péninsule ukrainienne de Crimée. Dans cette même région, là où il y a 3 semaines, 2 pétroliers russes s'étaient échoués en mer Noire, donc, lors d'une tempête. Le rugby, 14e journée du top 14 à 21h. Le RC Vannes recevra Clermont. Les Bretons qui disputent leur première année de top 14 sont déjà dans le dur. Fanny Lechevestrier, vous êtes en direct du stade de la Rabine à Vannes donc. Bonsoir Fanny.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Le RC Vannes est bon dernier du top 14. Il va donc jouer ce soir une partie de son maintien.
Oui, l'heure est à la mobilisation générale. C'est d'ailleurs le message qui circule partout sur le site internet du club, sur les réseaux sociaux du club. Et d'ailleurs, les tout derniers billets pour le match de ce soir se sont vendus cet après-midi. Ce sera un match à guichet fermé. On attend l'arrivée des joueurs, une aide d'honneur. On a appelé une aide d'honneur des supporters bretons pour les accueillir, pour les galvaniser pour cette rencontre effectivement très importante. Il faut gagner à tout prix pour encore avoir l'espoir de se maintenir en top 14. Pour le moment, les Vannetais sont derniers, vous l'avez dit, du championnat avec déjà 8 points de retard sur l'avant-dernier.
En route à présent pour la cérémonie annuelle des Golden Globes. Nous partons dans un très chic hôtel de Beverly Hills, comté de Los Angeles, les Golden Globe Awards. Première de toutes les cérémonies de remise de prix du cinéma international, avant l'autre grand rendez-vous, celui des Oscars, on va en reparler peut-être. Eh bien, cette nuit, les Français vont retenir leur souffle pour le film de Jacques Audiard, Emilia Pérez, avec ses 10 nominations, ce qui est d'ailleurs un record pour une comédie musicale. Bonsoir Loïc Piala.
Bonjour.
Oui, bonjour pour vous, bonsoir pour nous. Vous êtes sur le tapis rouge, en direct de Beverly Hills. Eh bien, la France sera globalement très bien représentée ce soir.
Oui, mentionnons déjà Flo, coproduction au mini-budget avec la Lettonie, super film d'animation qui a une vraie chance, même si le robot sauvage a une longueur d'avance. Et puis 5 nominations pour The Substance de Coralie Farja, meilleure actrice pour Demi Moore, comeback comme Hollywood les adore, meilleure comédie, meilleur scénario et meilleure réalisation pour la française Coralie Farja, qui sera donc en concurrence avec son compatriote Jacques Audiard dans ces trois catégories. Lui, ce sera pour Emilia Pérez, bien sûr. Le prix du meilleur film étranger, c'est comme si c'était fait pour la comédie musicale, si l'on en croit les rumeurs d'Hollywood. Pour la musique et la meilleure chanson, le duo de compositeurs place d'ailleurs 2 morceaux dans cette catégorie. Les chances sont bonnes également. Et puis, feu au vert pour le grand prix de la soirée, meilleure comédie, même s'il y a en face quand même la Palme d'Or à Nora, Wicked, carton au box-office. Potentiellement donc une excellente soirée pour Jacques Audiard, déjà nommé mais battu en 2013. C'était pour De Rouille et d'Os.
Et en dehors du spectre purement franco-français, Loïc, quels autres films ont leur chance ?
Difficile d'ignorer The Brutalist, qui a fasciné lors du Festival de Venise malgré sa durée de 3h30 plus l'entracte. 7 nominations pour le film de Brady Corbett, acteur de la série 24 heures chrono, devenu réalisateur de talent. Son acteur Adrien Brody pourrait aussi décrocher le Globe dans sa catégorie, ce qu'il n'avait pas fait en 2003 pour Le Pianiste avant de gagner l'Oscar. Comme quoi, autre film à suivre, Conclave et la succession compliquée d'un pape décédé. Beaucoup de densité chez les acteurs et les actrices, pas de favorite claire. Par exemple, dans la catégorie actrice d'un film dramatique, Angelina Jolie, Kate Winslet, Nicole Kidman et Pamela Anderson. Oui, c'est Pamela Anderson dans The Last Showgirl. Les Golden Globes, vous le disiez, marquent le coup d'envoi de ce qu'on appelle ici la saison des récompenses, avec en point d'orgue les Oscars le 2 mars prochain. Et le vote débute justement cette semaine. Alors les discours ou les surprises de cette nuit influenceront peut-être le choix des votants.
Et cette 97e cérémonie des Oscars se déroulera donc début mars au Dolby Theatre de Los Angeles. Et là encore, donc, Emilia Pérez est plusieurs fois nommée. Je rappelle que le thriller musical de Jacques Audiard a déjà été récompensé à Cannes par le prix du jury et aussi le prix d'interprétation féminine. Merci beaucoup Loïc Piala, en direct donc sur le tapis rouge de Beverly Hills à quelques heures donc du début des cérémonies des Golden Globes. Et lui, il est probablement l'un des plus beaux théâtres au monde. À Paris, le Palais Garnier fête aujourd'hui ses 150 ans. C'est le temple historique du ballet et de l'opéra de Paris. Le Palais Garnier a donc été inauguré un 5 janvier en 1875, un opéra où l'aristocratie de l'époque ne venait pas seulement écouter de la musique. C'est ce qu'explique Mathias Auclair. Il est directeur du département musique de la Bibliothèque nationale de France.
Si vous voulez, au moment où Garnier conçoit son opéra, le genre qui est en vogue à l'Opéra de Paris, c'est le grand opéra, c'est-à-dire un genre qui est fait pour la société parisienne, qui a comme fonction d'offrir un spectacle où les aspects visuels sont extrêmement importants, un spectacle très long aussi, parce qu'il faut pouvoir faire ses affaires en même temps qu'on va à l'opéra. On vient pas forcément d'ailleurs toujours à l'heure à l'opéra. Là, évidemment, on est très loin de l'opéra d'aujourd'hui, où maintenant tout le monde est dans le noir et tout le monde va à l'opéra religieusement. Mais c'était quand même un public extrêmement relevé, bourgeois, voire aristocratique. Aujourd'hui, heureusement, l'opéra s'adresse à un public beaucoup plus large. Et l'institution opéra, c'est une image internationale de la France incroyable. Au-delà du Palais Garnier, c'est l'opéra de Paris qui rayonne, en fait, parce qu'il y a toujours ce lien très homogène entre le bâtiment et l'institution opéra de Paris.
Un opéra dont l'accès, situé en haut d'un vaste escalier, a été imaginé à l'époque pour sécuriser le bâtiment. Il s'agissait déjà à l'époque d'éviter les attentats. C'était le souhait de Napoléon III. Aujourd'hui, l'Opéra Garnier, c'est 1 million de visiteurs par an. Et pour célébrer ses 50 ans, il y aura un grand gala prévu le 24 janvier. Notez qu'à partir de demain, les France Bleu, dont vous entendez régulièrement les reportages et les signatures sur France Inter, sur France Info, sur Radio France, eh bien France Bleu devient à partir de demain Ici, on entendra donc désormais des signatures comme Ici Sud-Lorraine ou Ici Loire-Océan. Attention aux coups de vent, alerte ce soir sur la moitié nord du pays, 21 départements sont en alerte au vent violent lié à la tempête Florian. La Loire et le Rhône dès 20h et les 19 autres départements à partir de minuit. Le temps.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Bonsoir Magali Rochereau.
Bonsoir Eric.
Avec un bon coup de vent demain sur le pays.
Oui, le front froid passe et engendre des rafales de sud-ouest à 100 km/h dans l'intérieur des terres et jusqu'à 110 sur la côte aquitaine, accompagnées de pluie le matin sur les régions qui bordent la Manche et l'Atlantique. Plus tard, dans l'après-midi, les pluies se décalent en faiblissant sur le nord, le centre et le sud-ouest du pays et de courtes éclaircies reviennent à l'ouest juste avant que le temps ne se refroidisse et que des giboulées de pluie et de neige gagnent la Bretagne.
Et les températures resteront hautes pour la saison ?
Oui, il n'y a plus de gelée à prévoir en ce lundi matin en plaine. Les minimales vont de 4 à 8 degrés en général du nord au sud et de 7 à 12 près de la Méditerranée. Dans l'après-midi, les maximales varient entre 9 et 15 du nord au sud-ouest et entre 13 et 17 sur les régions méditerranéennes. Après le passage de ce front, les températures se rafraîchissent et la semaine qui arrive pourrait bien être agitée avec de la neige et du verglas.
C'était Magali Rochereau.